Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, j'ai plaisir à recevoir Mohamed Hossein Ben Khira. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et vous êtes aussi vice-président de l'AGIS. L'AGIS est l'association des amis du groupement d'intérêt scientifique rattaché au CNRS et qui s'occupe du Moyen-Orient et du monde musulman. Alors aujourd'hui, nous parlons, si vous voulez bien, Mohamed Hossein Ben Khira, davantage de normes juridiques, de production du droit. Est-ce que cela doit être rattaché, enferré, arrimé à la révélation de Dieu, comme dans les sociétés religieuses, et tout particulièrement en contexte islamique? Ou est-ce que le droit doit faire évoluer aussi les sociétés? A-t-il un impact de type social, dans un état social? Et de ce point de vue-là, la norme juridique est une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes. Première question, on dit souvent que l'articulation de la parole, du langage, s'était suivie tout de suite pour les sociétés humaines par l'établissement de quelques règles de vie communes, donc c'est la naissance du droit.
On peut faire beaucoup d'hypothèses sur la naissance du droit ou de la loi, mais bon, déjà le langage lui-même comporte des règles, donc... Il est difficile de séparer les deux. Pour ce qui concerne l'islam, alors bien évidemment, les choses sont tout à fait particulières et il faut prendre le problème dans une perspective historique. Le Coran, qui est donc le livre de la révélation musulmane, le livre qui constitue le reflet de la prédication de l'islam à la fin ou au cours de la seconde moitié du 7e siècle, comporte un certain nombre de versets qui ont un caractère, disons, qu'on peut qualifier de législatif ou de normatif.
Et de prescriptif.
Bien sûr, oui, prescriptif, bien sûr. Alors, néanmoins, ces versets ont été dénombrés, ont été comptés, et ils ne sont pas finalement très très nombreux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, si mes souvenirs sont bons, il y en a entre 600 et 700, sur environ 6600 versets à peu près. Donc ça ne fait que 10% du total.
Et d'aucuns ajoutent, à supposer que l'approche quantitative ou quantifiée soit pertinente, que ceux qui sont clairement explicites ne sont que de l'ombre du nombre de 200, ça donne un trentième,
oui,
du Coran.
Vous avez parfaitement raison, beaucoup de versets sont obscurs. Ou alors vous avez, dans ce décompte, on ne tient pas compte des répétitions, donc il y a beaucoup de répétitions. Par exemple, les interdits alimentaires, il n'y a pas moins de 4 versets qui répètent les interdits alimentaires. Par ailleurs, il y a des versets qui, disons, ne disent pas exactement la même chose, donc qui sont considérés comme ayant été abrogés, comme par exemple au sujet de l'héritage, le verset, il y a un verset dans la sourate 2 qui prescrit le testament, alors que la sourate 4 définit un autre mode de succession. Donc, il y a tous ces détails-là, mais bon, disons que en gros, il n'y a pas beaucoup de versets à caractère législatif. Par ailleurs, il y a aussi autre chose à dire, ce qui paraît beaucoup plus difficile à comprendre, à expliquer. C'est que si on a beaucoup de versets qui sont plus ou moins détaillés, notamment concernant l'héritage, les fameux versets du début de la sourate 4, 12, 13 et suivants, les versets concernant le culte...
Oui, pardon, disons simplement pour les auditeurs qu'une sourate étant l'équivalent d'un chapitre sans être véritablement un chapitre.
Voilà. Les prescriptions concernant le culte sont alors, elles, extrêmement vagues. Par exemple, la prière, le mot est répété à je ne sais combien de fois, un nombre de fois très très important. Hein. Le mot salat, qu'on a l'habitude d'interpréter comme désignant la prière rituelle canonique des musulmans.
Et le mot même est d'origine syriaque, salat.
Oui, alors là, évidemment, les origines, c'est tout un chapitre de la discussion. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette salat n'est jamais expliquée. C'est-à-dire, on ne sait pas, à partir du Coran, on ne sait pas comment doit s'effectuer la prière. Hein? D'autant plus que les exégètes eux-mêmes reconnaissent que le mot salat veut dire en arabe tout simplement une prière de demande, une demande adressée à Dieu. Donc par conséquent, tout ce qu'on voit faire par les musulmans pour effectuer la prière n'est pas dans le Coran. Hein. Vous savez très bien également que, par exemple, le nombre de prières, les cinq prières, ne figurent pas non plus. Il n'y a que deux prières dans le Coran. Hein. Il n'y a que deux prières qui sont évoquées, et même de façon très très évasive. Hein. C'est pas très précis. Donc, de ce point de vue-là, le Coran comporte une dimension législative, mais en même temps, cette dimension législative est très très marginale, et puis en même temps, elle n'est pas très très claire. Donc, on ne comprend pas très bien ce problème. Hein, c'est très difficile, à ma connaissance. Personne n'est encore parvenu à expliquer très bien cette particularité du texte coranique. Là, les précisions sur le plan normatif sont apportées par le hadith, par la tradition, notamment la tradition prophétique ou, autrement dit, la sunna.
Le hadith étant donc ce corpus d'aphorismes, de maximes, de paroles, donc les dires ou les propos du prophète. Si je comprends bien, Mohamed Hossein Ben Khira, vous dites que, par exemple, pour la dévolution successorale et pour l'héritage, on a pléthore de versets de type normatif, alors que ce qui concerne le culte et de la pratique d'adoration pour Dieu, on a plutôt des approches plutôt elliptiques, plutôt vagues, et dont on n'arrive pas à les cerner. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que pour tel ou tel aspect, il y avait de la législation, mais au regard du corpus coranique en tant que tel, on voit que l'initiative, in fine, est laissée aux hommes, puisque c'est très peu au regard de l'ensemble des versets.
Alors, c'est très difficile d'interpréter cette situation, cette inégalité, hein. Il faut dire aussi que les règles successorales, c'est un cas très très particulier. Le Coran, dans la sourate 4, définit des règles successorales, ce que en droit français on appelle une succession ab intesta, hein, c'est-à-dire que ceux qui héritent sont énoncés explicitement dans la loi. Hein, avec leur part proportionnelle. Bon, cette sourate 4 donc définit un nombre de parents qui sont éligibles à la succession. Alors, en réalité, ce qui sera adopté par les musulmans comme règle successorale ne correspond pas, ça complique les choses, ne correspond pas exactement à ce que dit le Coran. Par exemple, le Coran est silencieux au sujet du grand-père et de la grand-mère, ce n'est pas le cas de ce qu'on appelle la loi islamique, hein, qui précise la part du grand-père et de la grand-mère. Donc il y a un certain nombre d'aspects comme cela qui ne sont pas évoqués dans le... Vous voyez, le problème est quand même extrêmement compliqué. Par ailleurs, on peut essayer de comprendre l'absence de règles concernant la prière par le fait que les premiers musulmans savaient comment prier. Par conséquent, le Coran n'avait pas besoin de préciser comment ils devaient faire, ni à combien de prières ils étaient tenus. On peut expliquer l'absence de réglementation dans le texte coranique. Par ailleurs, on pourrait rajouter que le Coran, le but du texte coranique n'était pas de préciser ces choses-là.
Parce que les primo-musulmans priaient comme ils voyaient le prophète prier, c'était ça? Ou comment savaient-ils prier?
Ça, c'est la thèse du hadith. Dans le hadith, il y a un texte très connu dans lequel le prophète dit à un de ses compagnons, ou un groupe de compagnons, il, aussi bien d'ailleurs pour la purification rituelle que pour la prière, il leur dit « Regardez ce que je fais, comment j'agis et imitez-moi ». On peut penser que ce texte n'est pas tout à fait
authentique.
N'est pas tout à fait authentique dans la mesure où on y trouve sous-jacente l'idée même de sunna, hein, c'est-à-dire l'idée sur laquelle le prophète doit être imité, constitue un modèle à imiter, ce qui est à la base même de l'idée de sunna.
Hein. Oui, qui est dans son acception là, c'est plutôt la tradition et notamment la tradition prophétique. Alors, la codification aussi bien des ablutions que de la prière, finalement, est venue comment ? Parce qu'on aurait imité le prophète ou il l'a initié et enseigné dans ses propos ?
On a un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre comment tout cela s'est construit. Hein. Nous possédons quand même un certain nombre de textes. Alors, il semble... Je dis bien « il semble », donc c'est une hypothèse, ce n'est pas une... je n'énonce pas des vérités, j'énonce seulement des hypothèses. Alors, il semble que tout s'est passé à la fin du 7e siècle, début du 8e siècle. Hein. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, apparaissent un groupe de personnages qui, par la suite, ont été qualifiés de « tabi'un », c'est-à-dire successeurs, on les a présentés comme les élèves des compagnons, donc comme ayant reçu l'enseignement du prophète par l'intermédiaire des compagnons qui ont été leurs maîtres. Mais eux-mêmes n'ont pas rencontré le prophète. Donc ces personnages qui sont présents aussi bien dans le Hijaz, c'est-à-dire à la Mecque et à Médine, que en Irak, notamment à Basra et Koufa, ainsi qu'en Syrie, mais beaucoup plus modérément. Donc ces personnages se lancent dans une sorte d'aventure qui consiste à élaborer un système normatif complet. Hein. Et donc ils discutent les moindres détails de ce qu'ils ont reçu, alors soit par le biais de l'enseignement de leur propre maître, soit ils discutent des aspects ambigus qui sont présents déjà dans le Coran. Par exemple, un cas que j'ai personnellement étudié, c'est un verset dans le texte coranique, le verset 95 de la sourate 5. C'est un verset bon qui ne dit pas grand-chose.
La sourate dite du festin, du banquet, voilà. Ou de la table. Oui.
Voilà. Alors, dans ce verset, il est question du pèlerin qui tue un gibier, une proie. Alors, la règle est qu'il est interdit aux pèlerins de verser le sang d'un animal sauvage, sauf en cas de légitime défense. Hein, s'il est attaqué par un loup, ou bien par un lion, ou bien par un serpent, etc., etc. Il y a un certain nombre d'animaux qu'il est permis de tuer parce qu'ils sont menaçants, parce qu'ils sont dangereux. Mais sinon, il est défendu de verser le sang sur le territoire sacré de la Mecque. Alors, le Coran dit... S'il agit intentionnellement, le terme arabe c'est muta'ammiden, hein, ce qui veut dire avec intention.
Oui, délibérément.
Voilà, délibérément. Le Coran précise que dans ce cas-là, il doit
expier
sa faute. Voilà. Oui. Alors expier sa faute. Alors là se lance toute une discussion autour de cette question de la volonté, de l'intention. Hein. Ce genre de choses permet d'élaborer un corpus juridique extrêmement, extrêmement étendu, en prévoyant tous les cas de figure. Et par ailleurs, là, on trouve l'origine, cette question de l'intention, de la volonté, de l'acte délibéré, et évidemment en relation aussi avec l'homicide, avec les autres actes.
Est-ce qu'à ce stade uniquement, même si ça n'a pas un lien direct avec notre sujet, le rituel du pèlerinage, les circumambulations autour de la demeure de Dieu, la Kaaba, etc., sont plutôt des rites païens qui ont été islamisés? Et est-ce que cette affaire de ne pas verser le sang sur ce territoire-là remontait déjà avant l'islamisation de ces rites?
Bien évidemment, là, on est en face d'un interdit qui est assez, c'est-à-dire que le dieu de la Kaaba est présenté comme une sorte de d'hôte qui reçoit les pèlerins sur son territoire. Par conséquent, ces pèlerins ne peuvent rien accomplir sans la permission de leur hôte. Et par conséquent, ils ne peuvent pas tuer d'animaux sauvages qui vivent là, qui sont d'une certaine façon sous la protection du seigneur de la Kaaba, pour utiliser les termes précis.
Et la Kaaba est encore une fois cette demeure de Dieu de forme cubique ou semi-cubique et vêtue de noir qu'on voit comme ça dans les images. Mohamed Hossein Ben Khaira, comment se fait-il, on a un début d'explication, que les versets de factures prescriptives, normatives, législatives sont très peu présents dans le corpus coranique. En gros, on a vu que c'était à peu près le 1/30 de l'ensemble des versets. Et il y a quand même une inflation. Elle est due à ces spéculations de ses suiveurs, de ses disciples, des tout premiers compagnons, ou parce qu'il y a là des élucubrations, on va aller un peu dans le détail, et c'est la naissance de plus tard. Je vous pose la question, parce que c'est peut-être pas tout à fait le mot approprié, de ce qu'on dira par la suite. La charia, mot qui a besoin d'être à la fois nuancé, expliqué, cerné dans toutes ses acceptions.
Alors, votre question est absolument vaste. Elle regroupe une série de questions.
Et il faut des émissions ad hoc.
Toute une série de questions. Évidemment, ce que j'ai dit à propos de ce premier groupe de personnages qu'on appelle Tabi'un, je dois vous donner l'occasion de compléter ma réponse. Ces gens, ce petit groupe, n'avaient aucun pouvoir. Hein? Ce sont des gens qui agissaient de façon tout à fait libre et indépendante par rapport au pouvoir établi, c'est-à-dire par rapport au califat. Hein? Par conséquent, ce qu'ils définissaient eux-mêmes comme normes n'était pas reconnu comme la norme officielle.
Et ce n'était pas contraignant, en quelque sorte.
En plus de ça, oui, ce n'était pas contraignant. D'autant plus qu'ils étaient eux-mêmes en désaccord sur pas mal de points. Donc, quand l'un pensait ceci, l'autre pensait le contraire. Leurs paroles n'avaient pas d'autorité. Hein. Elles n'avaient d'autorité que pour leurs proches disciples, hein, ou ceux qui voulaient les écouter.
Ou ceux qui ont été séduits par les arguments qui sous-tendent leurs idées. Oui,
voilà,
oui.
Voilà. Mais il semble qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui est difficile encore à bien expliquer. On a une génération ou deux générations plus tard, d'autres personnes se sont servies de ce legs, hein, donc de ces successeurs-là, c'est-à-dire leur travail. Ils ont repris leur travail pour forger ce qu'on a appelé la charia. Bien que le mot, c'est un peu plus compliqué, qu'on a la tendance à
le sens qu'on lui a donné. Bien sûr, parce que parfois ça veut dire religion, parfois ça veut dire une voie à suivre.
Voilà,
ça veut
vous avez parfaitement raison, bon, voilà. Le mot ne veut pas dire loi. Hein. Nous avons tendance, dans le monde occidental, à traduire ça par loi islamique, les Anglais disent Islamic law, etc. etc. Mais charia ne veut pas dire loi du tout, même à des époques tardives. Le mot charia, en fait, désigne, il est quasi équivalent avec religion musulmane. En fait, la charia, la bonne interprétation, ce serait de dire c'est l'ensemble des révélations de Dieu faites aux croyants, aux fidèles, aux musulmans. Tout cela constitue la charia. Et à l'intérieur de laquelle se trouvent évidemment les principes juridiques, les préceptes juridiques. Voilà.
Donc, ils s'en occupent partie. Comme on parle de la charia de Moïse, en quelque sorte, voilà, avec la Torah.
Voilà,
et...
voilà, voilà. D'ailleurs, c'est la théorie développée dès le 9e siècle par quelques auteurs musulmans, selon laquelle chaque prophète, chaque grand prophète a apporté sa propre charia, y compris Jésus, hein, ce qui, aux yeux des chrétiens, est tout à fait absurde, hein, puisqu'il n'est pas censé avoir... il est censé venir pour abolir la loi, et non pas pour...
Et on avait même poussé jusqu'à dire que Hammurabi avait une charia.
Oui, alors là, oui, évidemment, c'est...
Thank you. je voudrais rappeler aux auditeurs que nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Mohamed Hossein Benkhira, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et aussi vice-président de l'AGIS, que sont les amis du groupement d'intérêt scientifique en lien avec le Moyen-Orient et le monde musulman. Et nous parlons ce matin de normes juridiques, de droit, de production du droit. Et est-ce que le droit doit être enferré dans la révélation de Dieu pour les musulmans dans la révélation coranique, ou est-ce qu'il doit être encore une fois une initiative humaine, donc une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes? Mohamed Hossein Benkhira, vous avez étudié, vous, des cas, allez, prenons un exemple emblématique à propos de l'interdiction réelle ou supposée, modérée ou drastique, de le fait de s'adonner aux boissons fermentées, à l'alcool et au vin. Alors, il y a eu d'abord des étapes qui vont peut-être n'approchez pas la prière en état d'ébriété jusqu'à ce qui a été perçu comme une interdiction drastique. Comment pouvez-vous nous expliquer, vous qui avez travaillé beaucoup là-dessus, un peu toute l'évolution de la psyché humaine quand elle a reçu, à travers le ministère apostolique du prophète, mais aussi selon les discussions de ce que vous avez appelé, le terme arabe étant tabi'oun, donc ceux qui ont suivi, ceux qui sont les disciples des tout premiers compagnons, comment tout cela s'est élaboré dans le temps?
Écoutez, le cas du vin, si nous acceptons la traduction du mot coranique khamr par vin, le cas du vin est un cas assez singulier dans le Coran, puisque c'est un des rares objets qui, en faisant l'objet d'une interdiction, et en même temps fréquemment évoqué dans le texte coranique. Alors, ce à quoi vous avez fait référence, cette progression dans la prohibition, c'est la lecture qui en a été faite par les juristes d'époque tardive. Quand on lit, par exemple, un juriste comme... Il présente tout à fait clairement ce schéma, Al-Qurtubi, un Andalou, mais qui a vécu, enfin qui a fini sa vie en Égypte au XIIIe siècle. Al-Qurtubi nous dit Dieu n'a pas révélé l'interdiction de consommer du vin d'un seul coup. Il l'a révélé par étapes à des fins pédagogiques, pour ne pas en quelque sorte brutaliser, les fidèles qui s'adonnaient encore à la consommation de vin. Mais de ce point de vue-là, il se limite à quelques versets. Mais il y a beaucoup plus de versets que ceux à quoi il réfère lui-même, puisqu'il y a beaucoup de versets qui sont extrêmement favorables au vin. Alors, je me demande pour ma part, si la question du vin n'est pas liée à la structuration même du texte coranique. Mais évidemment, ça c'est un très très grand problème sur lequel j'ai quelques idées très très vagues, je ne peux pas parler d'hypothèses. Mais j'ai tendance à mettre en relation ce fait avec d'autres faits. Alors d'une part, nous avons un certain nombre de témoignages dont certains sont hyper connus, selon lesquels les musulmans ont continué à consommer non pas du vin, mais des boissons alcoolisées tardivement. Alors, il y a le cas fameux de l'alcool de date, dit Nabid, qui a suscité une grande controverse juridique entre les juristes dits de Koufa, de la ville de Koufa, et leurs adversaires, généralement ceux du Hijaz, donc de la région mécoise et médinoise. Donc, tardivement, jusqu'au 8e siècle, il y avait des défenseurs, et même plus tard, il y avait des défenseurs de la consommation de nabid, d'alcool de date.
Ce ne serait pas l'arak?
Alors, peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste de ce
boissons
genre de
fermentées
choses.
Voilà, et notamment
de leur histoire.
Et surtout de l'alcool de date.
Voilà. Par ailleurs, on a aussi des récits beaucoup plus rares selon lesquels tel ou tel personnage consommait du vin, mais à une époque tardive, et donc des personnes qui ne sont pas qui ne sont pas considérées comme étant des mécréants ou des hérétiques ou des choses comme ça. Donc il se peut que la consommation de vin se soit poursuivie malgré les préventions coraniques, hein, malgré les critiques coraniques, parce que le Coran ne dit pas il est interdit, hein.
Il y a même un passage où il est dit, vous avez dans les boissons fermentées quelques bienfaits et leur méfait est plus grand.
Voilà.
Et on s'est mis à énumérer les bienfaits et les méfaits pour voir lesquels des deux vont l'emporter, oui.
Ouais. Sans oublier qu'au paradis, il y a une rivière de vin.
Parmi les quatre rivières, celle de l'eau, du miel, du lait et du vin, ces fameuses liqueurs d'après qui sont réservées aux bienheureux, vertueux qui méritent de goûter.
Au paradis, le vin a une particularité, c'est qu'il n'engendre pas d'ivresse. Mais ce que je voulais dire à propos, la question sur le vin est très intéressante. Pourquoi ? Parce que ça met en relation beaucoup de choses ensemble. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est que peu avant l'avènement de l'islam, il y avait un courant très important au sein des communautés chrétiennes, ou alors des courants, on peut appeler ça, les historiens ne sont pas tous d'accord sur cette appellation, ce sont des courants qu'on appelle ancratites. Alors ces courants ancratites avaient une particularité, c'est qu'ils prescrivaient l'abstinence en matière d'alcool, l'abstinence en matière de viande, donc ils critiquaient la consommation de viande, ils étaient plutôt végétariens, et même l'abstinence sexuelle. Hein. Donc il y avait, mais ce que je retiens surtout, c'est le refus de boire du vin. Le refus de boire du vin et de consommer des boissons alcoolisées. Donc c'est une idée, à mon avis, qui était présente dans le monde musulman ancien, primitif, et par conséquent, elle a mis du temps, mais elle a fini par l'emporter. Figurez-vous que les juristes donnent une justification, parce que plus tard, disons à partir du 9e, 10e siècle, ils commencent à réfléchir sur les motivations des normes, les motivations des lois édictées par Dieu. Et alors, la motivation qui leur paraît la plus évidente, c'est que le vin a été prohibé parce qu'il engendre l'ivresse. Hein ? Ça fait évidemment référence au texte sur la prière. Hein. N'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre. Hein. Donc, la motivation, c'est celle-ci. Et donc, disent-ils, en fait, l'alcool, le vin, chasse la raison. L'homme devient déraisonnable. C'est parce qu'il faut être raisonnable qu'on ne doit pas consommer d'alcool. Donc, vous voyez, quand même, ça rentre dans une, selon moi, dans une logique qui est assez compliquée et assez intéressante à examiner de près.
Donc ce sont des ratiocinations qui passent depuis le verset qui stipule « n'approchez pas la prière en état d'ébriété », mais qui finit tout de même sur celui-là qu'on se base le plus souvent, dans ce, vous me pardonnez l'anglicisme, dans ce package, les jeux de hasard, les amulettes, l'art divinatoire en quelque sorte, et les boissons fermentées sont œuvres de Satan, évitez-la. Donc ce évitez-la, cette injonction qui a été perçue comme une interdiction, en réalité c'est mettez-la de côté.
Voilà, c'est plutôt évitez, mettez-la de côté, oui, echtanibou.
Donc mettez-la de côté.
Oui, textuellement, c'est mettez-la de côté, oui, effectivement. Mais le texte coranique, parfois, dit explicite l'interdiction, parce que le verbe arabe pour désigner la prohibition, c'est harama. Harama apparaît dans le Coran, mais...
Là, en l'espèce, il n'apparaît pas
ici.
Bien. Donc ça, on a passé un peu de temps sur cet exemple-là, on l'a pris uniquement comme un exemple identificatoire de ces discussions entre les tout premiers jurisconsultes, parce que pour eux, la source du droit doit s'adosser à un principe transcendant. Donc, c'est Dieu qui est le premier législateur. Et alors, on continue comme ça à travers l'histoire, ou sinon, comment ça se passe? Si je prends l'exemple de Soléman le Magnifique, avec son épithète magnifique connue ici en Europe occidentale, mais il était aussi connu comme le législateur. Donc ça veut dire qu'il y avait un droit de type séculier sous les empereurs ottomans.
Alors, il est appelé « al-qanouni » et non pas « al-shari' » ou bien « al-musharri'a », ce qui n'est pas exactement la même chose. Il y a une législation qu'on peut appeler, si vous voulez, de type séculier, mais c'est une législation qui est, d'une certaine façon, illégitime. Sur le plan religieux, en tout cas, elle est illégitime, puisque la seule législation qui est légitime, c'est la législation qui est d'origine religieuse. Alors là, l'affaire est un peu compliquée, parce qu'à partir d'une certaine époque, c'est-à-dire que, disons en gros, jusqu'au début du IXe siècle, les autorités politiques, le calife notamment, ou bien l'imam, avaient la légitimité pour interpréter la loi. À partir de la fin du
IXe siècle... L'imam chez les chiites, c'est dans son acception le plus large, pas celui qui conduit la prière.
Bien sûr, bien sûr. Mais pas seulement chez les chiites, chez chez les ibadites aussi, ils parlent d'imam. L'imam, c'est le chef de la communauté, et en tant que chef de la communauté, il a le droit de, d'une certaine façon, je dirais pas de légiférer, mais d'interpréter la loi. Par conséquent, il a le droit d'innover en matière juridique, pourrait-on dire. Cette possibilité disparaît progressivement à partir de la fin du IXe siècle, d'abord dans le monde sunnite et ensuite dans le reste du monde musulman. Les chiites suivent à peu près le même modèle, à la seule exception, devrais-je dire, d'un courant très très particulier du chiisme ismaïlien qu'on appelle Nizarite, qui sont en fait actuellement les disciples de l'Aga Khan. Voilà, c'est le seul courant où l'imam continue, l'Aga Khan étant l'imam, l'imam continue à être le chef de la communauté qui a légitimité pour dire la loi. Mais c'est beaucoup plus, même dans la communauté de l'Aga Khan, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'a pas une liberté, totale. Donc, à partir de ce moment-là, ce pouvoir de dire, d'interpréter la loi, devient la prérogative des docteurs de la loi, des ulémas. Et là, se crée un système de dualisme entre un pouvoir religieux qui a l'autorité pour interpréter la loi et un pouvoir politique qui, lui, est fondé seulement sur les armes, puisque le pouvoir est pris souvent par les armes. Il n'y a pas de mode de... Il n'y a pas d'alternance pacifique, ce sont des alternances souvent violentes. Donc, même à l'intérieur de la dynastie, par exemple, des Ottomans, les successions se faisaient souvent de manière extrêmement violente. Donc, vous avez ces deux pouvoirs. Alors, les détenteurs du pouvoir non religieux, du pouvoir séculier, prenaient des décisions, disons, de caractère administratif. Leur capacité, leur autorité se limitait souvent à cette dimension-là. Ce qui est le cas des empereurs ou des califes, enfin des sultans, il faudrait dire, des sultans ottomans.
Donc on ne peut pas, ça serait abusif de parler d'un début de sécularisation de fait de ce droit d'essence religieuse.
Ah non, il n'y a pas du tout de sécularisation, non. Il n'y a pas un processus de sécularisation, je ne crois pas qu'on puisse parler ainsi.
Alors, revenons à ces docteurs de la loi. Et la question, maintenant, que je vous pose, Mohamed Hossein Ben Khaira, c'est, on dit que dans le monde sunnite, il y a quatre grandes écoles juridiques, avec les fameux quatre maîtres éponymes. Le premier, Abu Hanifa, est décédé en 767. Le quatrième, en 855. Ça donne déjà une idée sur l'élaboration de ce corps de doctrine, le mot est abusif, sharia. Et qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'avant 767, on ne pouvait pas appliquer la loi de Dieu?
Alors, c'est une question qui a beaucoup intéressé les historiens, ça, bien sûr.
Ça veut dire que les Omeyyades ne pouvaient pas gouverner selon cette loi?
On a une petite idée des lois selon lesquelles ils gouvernaient. Donc, en gros, on pense qu'ils ont repris pas mal de choses des régimes qui les précédaient. Par ailleurs, il faut...
C'est-à-dire les Sassanides et les Byzantins.
Voilà. Par ailleurs, il faut abandonner l'idée que nous avons aujourd'hui, notamment en France, d'un État unifié. Il ne s'agit pas d'une entité politique unifiée. C'est une entité politique, d'abord, qui n'a pas une langue, qui a mis du temps à imposer l'arabe comme langue de l'administration. Hein, ça s'est passé, je crois, à l'époque d'Abdelmalek Ibn Marwan.
Oui, 685-705.
Voilà, c'est à la fin du 7e siècle. Alors, d'une part, il y a cet aspect. Par ailleurs, il n'y avait pas de volonté d'arabiser les populations. Les populations ont continué à parler leur langue, tout à fait. La preuve en est, les Iraniens, par exemple, ont conservé leur langue, il faudrait dire les persanophones, mais aussi les kurdophones, ont conservé leur langue, ces deux groupes iraniens ont conservé leur langue tout à fait normalement. Donc, il n'y a pas cette volonté d'unification. On peut penser par conséquent qu'il en était de même sur le plan juridique. Hein, c'est-à-dire que on n'a pas cherché à avoir une loi unique partout, sauf alors peut-être la tentative a-t-elle commencé dans le domaine religieux. Hein. Par exemple, la volonté de fixer une vulgate, un mushaf, un texte coranique unique, est peut-être un des premiers gestes sur le plan religieux qui a signifié la tentative d'unifier l'ensemble du monde musulman.
Oui, alors à ce stade, peut-on aussi poser la question, pourquoi 4 écoles et pas 5 et pas 3? Est-ce que 4 est garanti par le divin?
La question des écoles maintenant est relativement bien connue. On sait très bien que les 4 écoles n'ont pas été fondées par leurs supposés fondateurs, bien évidemment. Aucun des 4 n'a jamais fondé aucune école. Ils ont eu des élèves. Ils ont eu des élèves.
Certains d'entre eux ont dit « ne me suivez même
voilà,
pas ».
Voilà, oui, voilà. Voilà. Alors, ils ont eu des élèves. Ce sont leurs élèves à des générations assez tardives, d'ailleurs. Pas leurs élèves immédiats, mais les élèves de leurs élèves qui ont cherché à fonder des écoles. Alors, il faut dire que si on a des informations sur le processus historique, on ne le comprend pas encore toujours très très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que à partir du 12e siècle, l'idée de 4 écoles commence à se répandre. Parce que vous savez que, par exemple, la 4e école, hein, vous avez dit que Ibn Hanbal était mort le plus tard, lui c'est le plus jeune, hein,
oui.
C'est le plus jeune des supposés fondateurs.
A failli disparaître.
Oui, bien sûr. Alors, l'école hanbalite est sans doute apparue un siècle après sa mort. Hein, parce que les historiens soutiennent que dès lors qu'on a des manuels d'enseignement, hein, ce qu'on appelle en arabe « mortasar »,
compendium.
Voilà, c'est ça. Hein, dès lors qu'on a des manuels d'enseignement, ça veut dire qu'il existe une école. Hein, parce qu'on ne fabrique de manuels que pour l'enseignement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'école hanbalite est sans doute apparue au Xe siècle, puisqu'on a un manuel d'un certain Khiraqi, hein, à Bagdad, donc au Xe siècle. Mais jusqu'au XIe siècle, si je ne me trompe pas, Ibn Hanbal n'est pas reconnu comme le fondateur d'une école juridique.
Il était connu davantage comme théologien,
voilà,
que
oui.
Comme fondateur d'une école juridique.
Il est surtout connu comme, si on peut appeler théologien, une théologie du refus de la théologie. Hein. Il est surtout connu pour ses positions, bien évidemment. Oui. Parce que dans un ouvrage qui a pour auteur un andalou qui parle des grands imams, il ne parle que de Abu Hanifa, Malik et Shafi'i. Il ne parle pas d'Ibn Hanbal. Il ne le cite pas du tout.
Voilà. En réalité, l'objet de ma question, c'est de dire l'élément humain dans cette réelle ou prétendue loi de Dieu. Ça veut dire que les 4 écoles ne sont pas garanties par le divin. Ça aurait pu être 3. Avec l'école hanbalite qui aurait pu disparaître, mais qui a été ranimée ou réactivée. Mais ça aurait pu être 5 si on tient compte d'une 5e école, l'école Aouzaï, mais qui, elle, n'avait pas survécu aussi.
Oui.
Donc, si l'élément humain est là, donc ça sous-entend que l'élaboration de ce droit fut-il d'inspiration religieuse est aussi une construction humaine.
Alors, il faut distinguer deux choses. Vous avez parfaitement raison sur cette question-là. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le processus historique réel et la théorisation postérieure des juristes. Parce que les juristes ont répondu aux questions à la question que vous posez. Alors, il y a une erreur. On commet souvent, c'est pas une erreur, disons, c'est une méprise. On commet souvent une méprise en pensant que les juristes musulmans pensent que ce qu'ils disent est divin. Non, ce qu'ils disent, si vous voulez, il faut partir d'un point simple. Ce qu'ils appellent le nadar, le raisonnement. Ils disent qu'il y a un nadar, un raisonnement, ou une connaissance, parce que le mot veut dire aussi connaissance, connaissance.
Ou vu au sens de perception, voilà, intellectuelle.
Voilà. Alors, il y a des connaissances qui sont acquises, muktasaba, et puis il y a des connaissances qu'ils appellent daruriya, c'est-à-dire contraintes, nécessaires. Par exemple, ils disent que le fait de dire que 1 plus 1 égale 2, c'est une connaissance contrainte. On n'a pas le choix. Bon. Par contre, il y a des connaissances qui sont acquises. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire acquises, ils veulent dire que au moment où l'homme apparaît, il ne les connaît pas. Et donc, il faut qu'il fasse un effort pour les acquérir. Or, la loi de Dieu fait partie des connaissances acquises. C'est-à-dire que nous avons besoin de faire fonctionner notre intelligence, disent-ils, pour acquérir cette connaissance. Donc, si vous voulez, il y a cet aspect d'une part, puis il y a un autre aspect. Ils disent qu'une grande partie des lois, de la loi divine, est simplement, relève de ce que nous appellerions en français de la présomption, du dhanna.
Bien.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas certains. Il n'y a pas de certitude.
Ce qui explique la multiplicité des points de vue, des avis, etc.
Voilà. La tolérance des divergences, en quelque sorte.
Voilà, et certains ont même ajouté que dans la divergence des savants, il y a là une miséricorde.
Voilà.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Mohamed Hossein Benkhira, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et aussi vice-président de l'AGIS. L'AGIS étant l'acronyme de Les Amis du groupement d'intérêt scientifique rattaché au CNRS et qui s'occupe tout particulièrement du Moyen-Orient et du monde musulman. Dans cette troisième partie de notre entretien, Mohamed Hossein Benkhira, je voudrais, si vous voulez bien, qu'on porte l'accent sur « et maintenant ». Est-ce qu'on reste toujours dans l'interprétation de cette loi divine, avec la connaissance que les juristes doivent avoir, ou tout simplement dire « bon, le monde a évolué, les sociétés ont évolué et qu'il y a des domaines que peut-être la loi de Dieu n'avait pas prévu pour légiférer ou réguler ce comportement, parlant par exemple du droit des assurances, du droit maritime, des arsenaux nucléaires, d'Internet, que sais-je encore. Et là, il faut trouver nécessairement des analogies ou simplement laisser l'initiative législative aux hommes.
Alors, là, évidemment, vous posez le problème de l'adaptation de ce système normatif élaboré donc au 9e siècle, en gros, et donc de sa pérennité aujourd'hui. Alors, il faut rappeler quand même qu'il y a très très peu de pays musulmans où le système normatif élaboré au 9e siècle continue à être mise en œuvre. Alors, il y a quelques cas très, très marginaux. C'est le cas notamment des pays de la péninsule arabique, mais où le droit étatique commence à se développer de façon assez significative, notamment dans les domaines que vous avez indiqués. Hein. Il y a aussi quelques pays, je pense à la Mauritanie, à l'ancienne Libye, enfin l'Afghanistan, etc. Bon, mais c'est quand même assez peu de pays. Dans la plupart des autres pays musulmans, les États ont remplacé les juristes. Donc c'est les États qui fabriquent la loi. Alors le compromis qui a été établi dans à peu près tous les pays, c'est que les États font ce qu'ils veulent dans tous les domaines, à l'exception d'un seul domaine, c'est celui de ce qu'on appelle le statut personnel. C'est le noyau dur du système normatif islamique. C'est tout ce qui concerne le mariage, la famille, les successions, etc., etc.
Et de ce point de vue-là, la femme en pâtit.
Et de ce point de vue-là, effectivement, on assiste à une situation où la moitié de la population musulmane, 10 ans, est relativement marginalisée. Ça dépend des situations, bien sûr, ça dépend des différences entre sociétés locales, société rurale, société urbaine, etc., etc.
Et dans ce que vous dites, il y a un exemple qui illustre vos propos. Je le dis à grosses mailles et d'un point de vue d'une approximation très, très sommaire. C'est le cas marocain, avec même un gouvernement PJD, dit-on d'inspiration islamiste, et qui, de fait, sur les questions de l'administration, a hérité de l'administration sous le protectorat. Et là, il n'a pas changé grand-chose au niveau du droit administratif. En revanche, en ce qui concerne le statut personnel, on essaye d'arrimer cela à l'appréciation juridique de type religieux.
Oui, alors la réforme marocaine est intéressante d'un certain point de vue, c'est-à-dire qu'elle elle montre quand même qu'on reste prisonnier du système ancien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le système ne pourrait changer réellement, quand je dis le système, c'est-à-dire le système normatif ne pourrait changer réellement que si les docteurs de la loi eux-mêmes prenaient conscience de l'urgence et de la nécessité de le transformer. Or, jusqu'à nos jours, dans leur grande majorité, les oulémas restent rétifs à tout changement parce qu'ils ont peur qu'en concédant sans doute des changements minimes, il provoque
un ébranlement de l'ensemble de l'édifice.
Un ébranlement de l'ensemble de l'édifice. Donc, ils ont extrêmement peur. Et à mon avis, la situation politique non plus ne les encourage pas. Peut-être que dans des conditions plus pacifique, les choses auraient été possibles. Regardez par exemple cette histoire de début de Ramadan, c'est-à-dire l'impossibilité d'obtenir un accord de tous les musulmans sur le fait de s'en tenir au calcul astronomique pour définir les débuts de chaque Ramadan. On est obligé de recourir à la vision,
l'observation
à l'observation oculaire, voilà.
Oui, mais là, il faut une autorité.
Mais il n'y a pas d'autorité en islam. C'est ça la difficulté. Il n'y a pas de pape. Il n'y a même pas de concile. Il n'y a même pas de concile ou de synode. C'est-à-dire que, en plus de ça, dans chaque pays, la religion est étroitement liée. On a un peu un système qui se rapproche un peu du système orthodoxe. On a, dans chaque pays, la religion est associée à l'État. Donc vous avez un islam marocain, un islam algérien, un islam tunisien, un islam égyptien, etc., etc. Et par conséquent, ce sont en fait les États qui ont la même mise sur les oulémas ont un droit de censure, d'une certaine façon. Parce que si les oulémas ne sont pas d'accord, les États ne peuvent pas leur imposer non plus des changements. Aucun État, à ma connaissance, ne s'est risqué à toucher au domaine du culte, par exemple. À ma connaissance, sauf peut-être Bourguiba, mais c'est une tentative qui n'a pas, qui a fait long feu. C'est l'histoire du Ramadan, du jeûne. Il a pris un verre de jus à la télévision pour dire que les Tunisiens étaient dans les années 60 dans la ce qu'il appelait, lui, le jihad al-akbar, c'est-à-dire le grand combat pour le développement. Et donc, il fallait, pour cela, ne pas jeûner, etc. Son raisonnement était tout à fait tenable. Mais simplement, bon, il l'a fait sans l'accord des docteurs de la loi.
Alors, nous approchons du terme de notre entretien. Mohamed Hossein Bounkhira, là, vous parlez des sociétés musulmanes en contexte islamique avec des États qui ont domestiqué, voire même idéologisé pour d'autres fins que spirituelles la tradition religieuse. Mais qu'en est-il des citoyens musulmans en contexte non islamique, européen, parlons, et notamment des musulmans de France? Là, en réalité, ils n'ont qu'à se soumettre à la législation positive. Ils ne peuvent pas se prévaloir de leur vision du monde et du droit qui est d'inspiration religieuse.
Ah, mais de fait, c'est ce qui se passe. Hein, de fait, c'est ce qui se passe, puisque la loi qui est appliquée à tous, c'est la loi française, la loi de la République. Par conséquent, la loi religieuse, en fait, se limite, pour ce qui concerne les musulmans de France, ou d'ailleurs dans le monde européen en général, enfin en Europe en général, la loi religieuse se limite au domaine cultuel. Hein, dans la mesure d'ailleurs où parfois le domaine cultuel lui-même entre en contradiction avec les non pas forcément des normes, mais parfois des normes aussi qui sont en vigueur dans les sociétés européennes. Je pense par exemple à la question de l'abattage rituel.
Et du coup, le primat revient au droit positif.
Bien sûr, au droit des États européens. Hein, vous savez que certains États européens ont interdit l'abattage rituel, mais pas d'ailleurs s'agissant des musulmans, mais déjà au XIXe siècle pour les juifs.
Oui, pour ce qui concerne le sacrifice.
Voilà.
Oui, bon. Mohamed Hossein Bounkhira, je vous remercie de nous avoir édifiés par vos propos sur cette question du droit, de la production du droit et de son évolution. Et c'est aussi une question de modernité. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous êtes vice-président de l'AGIS. L'AGIS étant les amis du groupement d'intérêt scientifique rattaché au CNRS et qui s'occupe tout particulièrement du Moyen-Orient et du monde musulman. C'était Question d'Islam sur France Culture. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des livres et des musiques sur franceculture.fr. L'attaché d'émission est toujours Dominique Campetissa. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Éric Boissé. Et le réalisateur est toujours notre ami Franck Lilin.